Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Fanny Richer, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Bien que leur nuisance ne soit plus à démontrer, nos déchets s'amoncellent, nos chers déchets. C'est notre nouvelle série thématique cette semaine. Nous parlons du commerce international des déchets dont les pays du Sud ne veulent plus. Des collecteurs de déchets en Inde ou en Égypte qui travaillent dans des conditions précaires. De l'emprise toxique des mafias en Campanie, dans la région de Naples. Aujourd'hui, la pollution plastique, un problème non traité après l'échec des négociations internationales à Genève.
My plant. Et
suite au blocage, je décide d'ajourner les négociations et de renvoyer les discussions à une date ultérieure et à une prochaine session.
En tant que co-président de la coalition pour une ambition forte, nous sommes vraiment tristes de constater que nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève. Nous devons désormais explorer les options qui s'offrent à nous pour aller de l'avant.
Il y a un petit groupe de pays comme l'Arabie Saoudite, la Russie ou les États-Unis qui n'a tout simplement aucune envie de négocier ce traité. Ces pays sont de mauvaise volonté et tant qu'ils continueront à s'arc-bouter sur leur position, nous ne pourrons pas régler le problème de la pollution plastique. La planète ne peut pas se permettre de les laisser dicter leurs lois.
La scène se passe il y a déjà 30 ans dans une bananeraie de Guadeloupe où les agriculteurs ont appelé à l'aide le CIRAD, le centre de recherche agronomique de Montpellier. Quand la chercheuse Nathalie Gontard arrive sur place, les agriculteurs lui montrent les manteaux de plastique bleu dont ils ont habillé leurs arbres, des sacs de polyéthylène pour stimuler la croissance des bananiers et les protéger des parasites, et sur le sol des bâches en plastique noir pour les préserver des mauvaises herbes plutôt que le traditionnel paillage végétal. On en fait quoi maintenant ? Non, lui dit un cultivateur, quand il se baisse pour ramasser une bâche, celle-ci s'effrite en 1000 morceaux. Il y en a partout, du plastique, mélangé à l'humus et le moindre coup de vent le disperse. Les agriculteurs ont essayé de l'enterrer dans des fosses mais il n'y a plus de place, de le brûler mais les voisins se sont plaints. Le plastique est devenu hors de contrôle. Il est aujourd'hui partout, en ruban, en bouchon, en bouteille, en fragments, en débris, en micros et en nanoparticules. Un problème dont s'est saisi en 2022 l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui lançait des négociations pour un traité international. Mais 3 ans et 6 sommets plus tard, rien n'a bougé. Pour l'instant, on vient de l'entendre à Genève cet été. Les pays participants se sont encore quittés sur un échec. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Marianne Molinaire-Dubost.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en droit de l'environnement à l'université Jean Moulin Lyon 3 et vous êtes en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Bonjour Marie-France Dignac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio, directrice de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vous êtes membre du comité stratégique de la Coalition scientifique pour un traité plastique efficace. C'est un collectif créé pour apporter de la connaissance scientifique et des données aux décideurs qui sont impliqués dans les négociations. On en parlera bien sûr. Marie-France Dignac, quand a-t-on compris qu'on avait perdu le contrôle d'abord sur une matière qu'on découvrait avec fascination au début du XXe siècle, qui pouvait prendre la forme que l'on voulait, allégeait considérablement le poids des objets du quotidien, permettait de mieux conserver la nourriture, ou de ne pas avoir à repasser les chemises en polyester? Quand est-ce qu'on a su qu'on avait engendré un monstre?
Alors,
c'est assez récent.
Le plastique a commencé à vraiment envahir nos vies dans les années 50, mais dès les années 60, en fait, les scientifiques, en particulier ceux qui travaillent sur la pollution de l'océan, en fait, la prise de conscience a vraiment démarré avec la pollution de l'océan. Donc, dès 1969, on a eu un premier article sur l'atoll de Baisan, sur les îles Hawaï, qui montrait que les poussins d'albatros mouraient avec leur système digestif plein humains de débris plastiques grossiers, donc de morceaux de plastique. Et donc, dans cet article, les scientifiques ont réussi à montrer qu'en fait, les parents confondaient le plastique avec des aliments. Et donc, apportaient ces aliments à leurs poussins, pensant, ces morceaux de plastique à leurs poussins, pensant que c'était des aliments. Donc, c'était quand même 1969. Et dans les années 80, il y a eu beaucoup d'articles et de conférences sur l'impact des débris plastiques en mer, à la fois étranglement, étouffement et donc mortalité en fait de beaucoup d'animaux marins. Donc ça, c'était vraiment les premières constatations, c'était dans le milieu marin. Pour constater et aller rechercher également les impacts sur les milieux terrestres, il a fallu attendre les années 2010. Donc ça a été une prise de conscience beaucoup plus tardive. Donc vous avez cité l'exemple que donnait Nathalie Gontard de l'utilisation des plastiques en agriculture. Donc ça, c'est pas récent, cette utilisation. Mais la prise de conscience a été beaucoup plus longue.
Avec un appareil industriel mondial qui s'était jeté dessus tout au long du XXe siècle. De toute façon, c'était lancé quand on a commencé à comprendre les effets à la fois de la production de plastique, mais aussi des utilisations du plastique sur l'environnement. Ça faisait déjà plusieurs années que l'appareil industriel se nourrissait de plastique et en produisait aussi à tour de bras.
Oui, dès les années 70, hein, c'est un matériau qui a très vite été utilisé pour des usages uniques. C'est vraiment l'erreur qui a été faite parce que le plastique, par ailleurs, évidemment beaucoup de services dans beaucoup de matériaux essentiels pour la société, mais tous ces usages uniques qui ont été dès le début mal gérés, que l'on ne sait pas, toujours pas recycler aujourd'hui, hein, il y a 10% du plastique au niveau mondial qui est recyclé. Donc tous ces usages uniques qui finissent essentiellement dans l'environnement, dans les pays en développement, mais même dans les pays qui disposent des infrastructures de collecte et de tri des déchets, il y a des fuites importantes dans l'environnement. Et il y a eu une prise de conscience encore plus récente du fait que les plastiques polluent bien avant de devenir des déchets. Et donc c'est vraiment ce qui est dans la résolution de l'ONU pour la négociation de ce traité international. Le plastique pollue dès sa fabrication, dès sa production et même avant, lors de l'extraction des matières premières, puisque 99% du plastique est fabriqué à partir de pétrole.
Et pendant l'utilisation aussi de ce plastique, quand on roule avec un pneu par exemple, ça libère des particules de microplastiques qui se logent dans les airs, les terres, les eaux, les êtres vivants. Quand on parle de la production de plastique, on parle d'une courbe exponentielle. Et ce n'est pas un mésusage de ce mot ou une facilité de langage. La production plastique double tous les 20 ans. Les ONG ont mesuré qu'avec ce qui est produit pour cette seule année 2025, on pourrait emballer 50 fois la France dans du film alimentaire. Vous me direz à quoi ça sert, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais en tout cas, ça donne une idée, c'est l'image qu'ont trouvé les ONG pour nous dire ce qu'on était en train de produire. Marianne Molinaire-Dubost, donc on expliquait que ce sont les spécialistes des océans au départ qui ont commencé à alerter. Quand est-ce qu'on a réalisé que l'enjeu dépassait les seuls océans et qu'il fallait parler du plastique comme d'un problème à traiter au niveau mondial?
Alors, le problème, effectivement, c'est identifié d'abord comme une pollution plastique parce que 80% des déchets qui sont produits sur la Terre finissent, aboutissent dans les océans, en passant donc essentiellement par les fleuves. Donc ça a d'abord été effectivement une problématique conçue comme une pollution des océans. Et c'est en 2017 que l'Assemblée générale des Nations unies et l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement se sont saisies de cette problématique avec la pollution des océans. Et puis, on s'est rendu compte, notamment avec les microplastiques, que cette pollution, en fait, elle a envahi tous les compartiments de l'environnement. Absolument. On en retrouve dans les sédiments marins, on en retrouve dans l'atmosphère, on en retrouve dans les glaces polaires. Il y en a partout.
Dans les nuages.
Tout à fait. À tel point d'ailleurs que certains scientifiques ont proposé de faire des microplastiques un marqueur stratigraphique de l'Anthropocène. C'est-à-dire ce qu'on appelle un clou doré qui permettrait de marquer le début de l'ère de l'homme.
Où l'homme a marqué son empreinte sur l'environnement.
L'empreinte de l'homme se sent dans les différentes strates de l'environnement.
Donc en mars 2022, cette Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement réussit à voter une résolution qui ouvre la voie aux négociations actuelles, qui sont toujours en cours, pour la rédaction d'un accord international sur le plastique. Il s'agit, disent les textes, de mettre fin à la pollution plastique à travers un traité juridiquement contraignant. Mais est-ce qu'il est une évidence pour tout le monde, Marianne Molinaire-Dubost, que ça veut dire non seulement trouver une solution pour les déchets, mais aussi d'arrêter la pollution à la source ? En limitant, voire en arrêtant la production. Est-ce que là-dessus, est-ce que déjà tout le monde est d'accord sur l'objectif du traité en lui-même, dans ses termes les plus larges, quoi, mettre fin à la pollution plastique ?
Alors, malheureusement non. Sinon, je pense qu'on aurait davantage avancé sur ces négociations. Le mandat de négociation, il est interprété de manière différente. La première façon de l'interpréter, c'est de s'en remettre aux mots qui sont quand même très forts, qui impliquent qu'on ait une approche globale durant tout le cycle de vie. Alors si les mots ont un sens, tout le cycle de vie, ça implique de s'intéresser déjà à la production de plastique. Si on n'arrête pas la production de plastique, on n'arrêtera pas la pollution plastique. Or, l'objectif, c'est de mettre fin. Éliminer. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la coalition de haute ambition. En face, on a le Like-Minded Group, qui, au contraire, donc qui est mené par les pays producteurs de pétrole et de plastique, qui, eux, considèrent qu'il s'agit de mettre fin à la pollution plastique, pas au plastique. Donc là, on a une interprétation totalement différente et ce groupe considère par conséquent qu'on n'a pas à s'adresser à la production en soi, mais au cycle, à l'aval du cycle, plus exactement, des déchets qu'on pourrait réutiliser, qu'on pourrait recycler, etc. Ce qui est totalement illusoire.
Donc c'est en cela que s'opposent ces deux coalitions de pays qu'on appelle en effet pour les désigner la coalition des pays à haute ambition, ceux qui veulent un traité contraignant et ambitieux donc, et ceux qui n'entendent pas le moins du monde arrêter de produire du plastique, on les appelle les pays obstructeurs, comme cette négociatrice pour l'Arabie Saoudite par exemple, qui pense que la question n'est pas là.
Nous sommes très alarmés et nous trouvons très problématique le fait que dans ce processus destiné à nous accorder sur un traité contraignant, les discussions aient dérivé autour de certains sujets en délaissant la question du recyclage et de la gestion des déchets.
Marielle Jichy, négociatrice pour l'Arabie Saoudite, qui, comme tous ces pays de cette coalition-là, pense que le vrai sujet, c'est le recyclage et dire qu'on peut recycler le plastique. C'est quand même le rendre acceptable, c'est ça qui rend le plastique acceptable. On aura le temps d'y revenir avec vous, Marie-France Dignac notamment. Les pays producteurs d'hydrocarbures, donc nécessaires pour la production de plastique, versus les pays qui ne produisent pas d'hydrocarbures et donc pas de plastique, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est comme ça que se divisent ces deux coalitions de pays quand ils se retrouvent dans une arène comme à Genève pour discuter de la fin du plastique?
Oui, c'est une bonne description. Donc les pays ambitieux, aujourd'hui, c'est presque 120 pays, donc la coalition de haute ambition monte à 75 pays aujourd'hui officiellement, mais elle a été étendue à les pays de la haute ambition et leurs alliés. Et donc là, on arrive à 120 pays qui ont, par exemple, signé la déclaration du Panama lors de la session à Busan sur...
En Corée du Sud, l'année dernière.
En Corée du Sud, en novembre 2024, sur la nécessité d'adresser la production de plastique, si on veut limiter la pollution. Des pays, plus de 100 pays ont signé la déclaration du Mexique sur la nécessité de réglementer les substances chimiques et les produits plastiques problématiques. Donc on a, et puis on a eu l'appel de Nice lancé par la France lors de l'UNOC en juin 2025, qui a été signé par 96 pays. Donc en fonction des sujets, on arrive entre 100 et 120 pays ambitieux. Donc c'est quand même une large majorité des États membres de l'ONU. Et puis on a cette vingtaine de pays qui fait obstruction et qui, on peut le dire, dans leurs interventions, nient la science. En fait, les pays ambitieux, ils tiennent compte aussi des données scientifiques et ils vont y faire référence dans leurs déclarations. Ces pays, quand ils disent c'est pas un problème de plastique, c'est un problème de déchets, ça c'est une négation de la science, puisque tous les modèles scientifiques, y compris les modèles de l'OCDE, montrent qu'on n'arrivera pas à limiter la pollution plastique si on ne limite pas la production, puisque la pollution est proportionnelle. Plus on produit, plus on pollue. Parce que le plastique aussi pollue pendant l'ensemble de son cycle de vie et parce que les traitements des déchets, toutes les technologies de traitement des déchets sont polluantes aussi.
Donc ça, c'est ce que vous êtes chargé, vous, Marie-France Dignac, avec 450 autres personnes à peu près membres de cette coalition de scientifiques. C'est ce que vous êtes donc chargé de venir dire à ces négociations pour tenter le plus possible d'opposer des arguments scientifiques à des questions plus politiques que mettent ces pays sur la table. Peut-être un mot pour comprendre aussi pourquoi ces pays dits de haute ambition sont résolus à trouver un consensus, mais vraiment d'élaborer un traité contraignant. Marianne Molinaire Dubost, quelles considérations les ont fait rejoindre ce côté-là de la barrière? On imagine bien qu'il n'y a pas 120 États pour être dans une logique de décroissance. Donc quelles sont leurs motivations à eux, à ces États qui veulent un traité contraignant?
Alors ces pays ont déjà une meilleure conscience. Il y a peut-être moins d'enjeux économiques pour certains d'entre eux. Certains d'entre eux, et ils sont nombreux malheureusement, sont victimes de la pollution plastique, en particulier en Asie, mais pas seulement, en Afrique également.
Mais avec des ambiguïtés, parce que la Thaïlande, par exemple, est touchée par la pollution plastique, mais elle a aussi développé une grosse industrie du plastique, et donc elle fait plutôt partie des pays obstructeurs, si j'ai bien compris.
Oui, alors après, effectivement, les pays sont pas toujours d'une cohérence parfaite. Alors ceux qui sont les plus ambitieux sont ceux qui ont déjà adopté un certain nombre de mesures, un peu pour donner l'exemple, comme c'est le cas par exemple de l'Union européenne, qui a une position de leadership de la même manière que pour le climat, qui a déjà adopté sa directive en 2019 sur le plastique à usage unique, qui a déjà interdit le bisphénol A dans les biberons, donc qui est un perturbateur endocrinien. Donc voilà, il y a cette espèce d'effet d'entraînement pour montrer l'exemple et pour faire en sorte que le progrès avance sur ce point, parce que tout simplement on est déjà plus dans les limites du soutenable.
Et comment la composition de ces deux coalitions, leurs contours, ont évolué ces derniers temps? Vous êtes encore avec nous, Marianne Molinaire Dubost? Oui, voilà, je voulais savoir s'il y avait des pays, par exemple, qui se sont longtemps rangés du côté des pays obstructeurs et qui, récemment, ont décidé que, finalement, ça suffisait le plastique et qu'ils allaient suivre les 120 plus ambitieux.
Alors, ça peut être que Marie-France, qui a assisté aux négociations de l'intérieur, pourra
mieux. D'accord, répondre. Il me semblait que vous aviez parlé de l'Inde en préparation, mais l'Inde, par exemple, c'est un exemple intéressant, Marie-France Dignac?
Alors, l'Inde, ils n'ont pas trop bougé.
D'accord.
Hein, à mon sens, ils n'ont pas trop évolué. Nous, on a vu une forte évolution des pays d'Afrique de l'Ouest en particulier, alors avec lesquels on est davantage en contact en tant que francophone, parce qu'il y a aussi une difficulté dans ces négociations, c'est qu'elles sont essentiellement en anglais. La science est essentiellement en anglais, et donc les scientifiques francophones, on essaie aussi d'aller plus vers ces délégations francophones. Et on a vu des pays rejoindre la haute ambition sur les aspects santé, notamment parce que les plastiques sont énormément utilisés en Afrique, souvent pour emballer des plats chauds. Et on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas chauffer le plastique, il ne faut pas le mettre en contact avec des aliments chauffés, parce qu'il va y avoir des transferts de substances chimiques des plastiques, dont beaucoup sont polluantes, notamment les phtalates avec des effets perturbateurs endocriniens, vers la nourriture. Donc une fois qu'on a informé que les pays ont bien voulu nous écouter en tant que scientifiques indépendants, qu'ils sont convaincus des dangers de l'utilisation du plastique, ça a pu faire bouger les lignes aussi. Et donc, il y a un certain nombre de pays africains comme le Bénin, le Congo, le Gabon, qui ont rejoint cette coalition de haute ambition dans les dernières négociations, sachant que le Congo et le Gabon sont aussi producteurs de pétrole.
Donc le Nigeria aussi en Afrique anglophone.
Voilà. Mmh. Alors, le Nigeria, il est peut-être
plus mesuré
dans ses positions après dans les négociations. Mais en tout cas, le Congo et le Gabon, par exemple, qui ont un intérêt économique, ont aussi une vision de l'aspect santé. Il n'y a aucun politique qui veut empoisonner ou qu'il y ait des problèmes de santé pour sa population.
Les États-Unis, eux, qui n'appartenaient jusqu'à présent à aucun camp véritablement, sont aujourd'hui plus proches des obstructeurs.
Nous revenons aux pailles plastiques, car les autres pailles ne marchent pas bien. J'ai dû en utiliser à de nombreuses reprises, et à chaque fois, elles cassent, elles explosent. Si on les utilise avec une boisson chaude, elles ne tiennent pas 2 minutes, parfois même pas 2 secondes, c'est ridicule. C'est pourquoi nous revenons aux pailles plastiques, et c'est absolument OK. Et je ne pense pas que ce plastique fera du mal aux requins.
Alors, on ne sait pas si Donald Trump a mâchouillé le feutre avec lequel il a signé ce décret parmi les premiers décrets signés au tout début de sa présidence, mais on sait que, en France, la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes a analysé tout récemment en laboratoire 31 fournitures scolaires. 14 se sont révélées non conformes, dont 9 considérées comme dangereux, notamment à cause des additifs qui sont mis dans les stabilos, les marqueurs, les feutres. C'est une question d'additifs. Vous parliez tout à l'heure des phtalates. Marie-France Dignac, il y a combien d'additifs aujourd'hui qu'on a ajoutés dans les plastiques pour en faire à la fois des plastiques soit plus résistants, soit anti-condensation pour empêcher l'apparition de buée sur les parois des emballages, les retardateurs de flamme qui rendent le plastique moins inflammable, etc., etc.
Alors la question des additifs est compliquée parce qu'en fait, il n'y a pas de transparence sur la composition des plastiques. C'est un secret industriel, donc on n'y a pas accès, même en tant que scientifique. Mais on sait qu'il y a à peu près peut-être 4000 formulations différentes de plastique et qu'il y a vraiment une course en avant vers des formulations de plus en plus complexes où on a rajouté des ingrédients pour changer un peu les propriétés, mais on n'en a jamais enlevé. Et donc, il y a une étude l'année dernière, l'étude Plastchem, qui a analysé les plastiques du quotidien qui nous entourent et qui ont dénombré 16 000 substances chimiques dans ces plastiques. Toutes n'ont pas été ajoutées, parce qu'il faut savoir que des substances se forment aussi lors de la mise en forme des produits plastiques, parce que c'est une mise en forme qui se fait à haute température. Et beaucoup de substances se forment également lors du recyclage. Donc le plastique recyclé, en général, contient plus de substances chimiques. Parmi ces 16 000 substances chimiques, il y en a 4 000 qui sont connues pour être dangereuses pour l'environnement ou pour la santé humaine. Mais le plus grave, c'est qu'il y en a 10 000 pour lesquelles on n'a pas de données de dangerosité. Donc on ne sait pas quels sont leurs impacts sur l'environnement ou la santé humaine. Et il y en a que quelques pourcents de ces substances qui sont réglementées au niveau international.
Alors quand Donald Trump parle de réintégrer, il n'a pas fait que le dire, hein, vraiment, il paraît que cet été dans les bars des États-Unis, c'était plein d'affiches partout, nous avons racheté des pailles en plastique, servez-vous. Alors il y a une question d'affichage presque politique, anti-idéologie environnementale, comme disent ceux qui s'y opposent. Donc les États-Unis pour des raisons politiques, mais sinon, parmi les pays obstructeurs, Marianne Molinaire-Dubost, il y a l'Iran, la Russie, l'Arabie Saoudite. Pourquoi ces pays-là restent-ils si attachés au plastique? Quelle part, en tout cas, de leur pétrole est utilisée pour produire du plastique? Est-ce qu'on a une idée de l'importance pour eux de l'avenir plastique?
À partir du moment où, comme Marie-France le disait tout à l'heure, 99% du plastique provient du pétrole, on comprend très bien que les pays producteurs de pétrole soient très attachés à ce qu'on ne touche pas au plastique, d'autant qu'en parallèle, les négociations sur le climat cherchent aussi à réduire le recours aux combustibles fossiles. Donc on comprend dans ce contexte-là qu'ils s'arc-boutent sur un débouché qui est vraiment majeur pour leur économie. Après, j'ai pas de chiffres précis sur l'importance, mais c'est important.
Et ils développent des projets par ailleurs pétrochimiques dans la transformation du plastique. Ils sont assez à la pointe, que ce soit l'Arabie Saoudite ou d'autres.
Alors, ce qui serait, effectivement, hein, il y a eu une étude récente qui a été publiée il y a quelque temps sur ces investissements qui sont faits dans des nouvelles unités de production et qui montrent que ça sera pas rentable à terme et que c'est une erreur. Donc, bon, espérons que ça les motivera à revenir un petit peu en arrière, mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air d'être pour l'heure le sens de l'histoire.
D'autant que l'avenir de la demande en gaz et en pétrole est incertain. Donc l'Arabie Saoudite, par exemple, s'est lancée dans des projets pétrochimiques géants. Le site Amiral, par exemple, 2 unités de production de polyéthylène. Le site doit commencer à produire l'année prochaine si les recours déposés par des ONG devant les tribunaux n'aboutissent pas. Alors Marie-France Dignac, on a commencé à évoquer le travail qu'en tant que scientifique, vous êtes chargée de faire auprès de toutes ces délégations à chaque fois qu'il y a un sommet international, mais également en dehors, bien sûr. Mais cette coalition de chercheurs dont vous faites partie, qui s'est constituée en 2022, comment a-t-elle été montée et avec quelles éventuelles difficultés dès le départ ?
Alors, donc la résolution 514 de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement date de mars 2022, donc où 175 pays ont signé cette volonté donc de négocier un traité. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'interface sciences politiques, donc il n'y avait rien n'était prévu pour informer. Les pays sur les aspects scientifiques. Et il faut savoir que cette question de la pollution plastique, on l'a un peu entrevue dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, elle est extrêmement complexe. Parce que c'est justement, on parle de l'ensemble du cycle de vie, évidemment pour le grand public, pour la plupart, même au départ des pays, c'est une question de déchets, il suffit d'enlever les déchets, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça fait intervenir de la chimie des polymères, de l'écotoxicologie, des aspects santé humaine. Et donc en novembre 2022, des scientifiques de différents pays ont décidé de manière volontaire de créer cette coalition des scientifiques, donc qui est une structure informelle qui a grossi au fil des négociations. Donc aujourd'hui, on en est à 450 scientifiques de 65 pays différents qui sont dans cette coalition, toujours sans statut officiel. Donc on participe aux négociations en tant que chercheurs individuels et on travaille ensemble lors des négociations et entre les sessions pour synthétiser, pour écrire des notes de synthèse accessibles à tous, qu'on va diffuser pour les politiques, mais qui sont aussi accessibles pour le grand public. Qu'on peut télécharger.
Est-ce qu'il était déjà une évidence que vous ayez des accréditations ? Que vous participiez à ces sommets ?
Alors ça, c'est un aspect compliqué, puisque pour participer à ces sommets, il faut être, en tant qu'observateur, il faut être accrédité. Donc les ONG ont des accréditations. Donc au début, les scientifiques pouvaient être accrédités avec des ONG, ce qui leur permettait de participer. Mais dans ce cas-là, on a un badge avec le nom de l'ONG, donc ça limite un peu notre indépendance. On peut aussi être accrédité avec des États membres. Donc en France, on a la chance que le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères inscrivent des scientifiques sur la liste de la délégation officielle de la France. Dans ce cas-là, on est observateur, on n'a pas accès aux négociations, on n'a pas accès aux positions, aux stratégies des pays, mais on peut participer au moins. Et puis, donc ça nous a permis de participer à partir de la troisième session de négociation à Nairobi fin 2023 notamment. Et en 2024, l'UNEP a changé un petit peu ses règles d'accréditation et il a été possible d'accréditer des universités, puisque c'est soit des États membres, soit des organismes non gouvernementaux. Les universités, en général, elles dépendent ce sont des universités d'État. Et donc, il fallait montrer que l'université n'était pas influencée, en fait, par la position de la France et avait un statut indépendant. Donc, ce qui a été possible, la Sorbonne Université à Paris, par exemple, a été la première université française à être accréditée
à titre académique
auprès de l'UNEP.
Donc, voilà. Ensuite, vous participez à ces sommets. Quelles études choisissez-vous de mettre en avant? Que répondent les représentants des États obstructeurs? Est-ce qu'ils s'opposent à des études en particulier ou est-ce qu'ils restent sur des discours très généraux? On ne peut pas arrêter de produire du plastique, il faut se concentrer sur le recyclage.
Non, ils s'opposent. Donc nous, on va faire des synthèses scientifiques de tout ce qui fait consensus. Donc en particulier sur les aspects santé humaine, les choses ont pas mal évolué depuis le début des négociations en 2022, où on avait, c'était déjà clair que les substances chimiques des plastiques, notamment les phtalates ou les bisphénols, avaient des impacts sur la santé. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de données sur les impacts des microplastiques ou des nanoplastiques, par exemple. Donc, on va synthétiser un ensemble, le corpus scientifique. On ne va pas se baser sur une seule recherche, sur un seul article, parce que là, évidemment, ça pourrait être attaqué. Donc, on est des scientifiques indépendants qui n'avons pas d'intérêt ni pour ni contre le plastique. La coalition des scientifiques, d'ailleurs, a une politique en termes de gestion des conflits d'intérêts qui est très stricte. Donc, on doit faire chaque membre a fait une déclaration d'éventuels conflits d'intérêts. Donc on va se baser sur des corpus scientifiques, notamment par exemple sur la question des microplastiques, donc qui est le premier article sur les microplastiques date de 2004 de Richard Thompson, qui est un chercheur britannique, qui a montré que les plastiques qui disparaissaient de l'océan ne disparaissaient pas, en fait ils se fragmentaient. Donc là on a 20 ans de recherche sur les impacts écotoxicologiques et des recherches un peu plus récentes sur les impacts sur la santé humaine. Et on entend encore des pays dans les sessions de négociation qui disent les microplastiques, c'est pas un problème, il y en a, mais ils sont inertes, ou il y en a pas beaucoup, donc c'est pas important. On entend des choses comme ça, on entend les plastiques n'ont pas d'impact sur la santé, alors que là, les recherches sont avérées, il n'y a pas de doute. Et donc, c'est pour ça que je parlais de déni, parce que je pense que, comme dans le réchauffement climatique et l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique, on assiste à un déni de la science sur l'impact des plastiques.
Marianne Molinaire-Dubos, qui sont les lobbyistes du plastique? Est-ce que ce sont les mêmes que les lobbyistes du pétrole?
Oui, en partie, en grande partie, effectivement, puisque leurs intérêts se rejoignent. Mais il y a aussi les lobbies de la production du plastique. Donc, le pétrole, d'une part, le plastique, la production de plastique primaire en particulier, et puis aussi l'industrie agroalimentaire. On en reparlera tout à l'heure avec...
Dans le focus pour parler de l'image qu'ils veulent redorer à ce sujet.
Avec,
Corentin Gariel.
La mise en bouteille, notamment, avec l'argument qui est quand même assez discutable des analyses ACV qui permettraient de conclure, ça reste à démontrer, on en reparlera sans doute, que le plastique serait plus neutre sur, enfin, plus neutre, serait, du point de vue du climat, une meilleure option que le verre, par exemple, pour les emballages en bouteille, parce que, ou que les canettes en aluminium, parce que ça produirait moins d'émissions de CO2. Alors, ce qui est tout à fait contestable, si on intègre toutes les externalités du plastique, il n'est pas du tout concurrentiel. Il n'y a aucun moyen de le défendre.
Lors du sommet de Busan en Corée du Sud, donc fin 2024, 220 lobbyistes étaient présents. On rappelle qu'il s'agit quand même d'un sommet où doit être signé ou rédigé un traité international contraignant sur le plastique. Alors, ça avait fait dire au député Modem Philippe Bolo, qui travaille sur ces questions et qui était sur place, qu'il se croyait dans un salon professionnel de la pétrochimie avec toutes ces entreprises. Alors, l'American Chemistry Council avait envoyé 7 personnes, ExxonMobil 4, avec cet argument répété comme un mantra, il faut tout miser sur le recyclage, ce que disent d'ailleurs tous les industriels qui travaillent avec le plastique.
Dans une balle comme ça, il y a combien de bouteilles?
À peu près 10 000.
10 000 bouteilles?
À peu près, oui.
D'accord.
C'est pas un déchet, c'est une matière première. Aller rechercher ça, c'est diminuer notre impact sur l'environnement tous les jours. C'est un cycle de recyclage infini parce que cette bouteille que l'on va produire dans quelques jours sur notre ligne de production va retourner sur votre table dans quelques jours ou dans quelques semaines. Une fois que vous l'aurez consommée, elle va aller dans le bac jaune, dans votre centre de tri près de chez vous, et ensuite revenir ici.
C'est sans fin, c'est incertain.
C'est sans fin, c'est absolument sans fin.
Un représentant de l'usine Infineo à Beaune, cofinancé cette usine par Coca-Cola, interrogé par Cash Investigation en 2018. Vous vouliez dire, Marianne Molinaire-Dubos, quelque chose à ce sujet? C'est vrai que cette question, cette rhétorique du tout recyclage, on l'entend vraiment partout.
Je voulais d'abord donner quelques chiffres sur la présence des lobbyistes pour que ça bien mettre les choses en perspective. À Genève, au mois d'août dernier, 234 lobbyistes des énergies fossiles et de la pétrochimie. Alors c'est rien, par parenthèse, par rapport au lobby qu'il y avait à Dubaï à la COP28, hein, qui était plus de 2400. Mais enfin quand même, ces 234 lobbyistes à Genève étaient plus nombreux que les délégations diplomatiques des 27 pays de l'Union européenne et de l'Union européenne, 4 fois plus nombreux que la coalition des scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, et 7 fois plus nombreux que le Forum international des peuples autochtones sur les plastiques. Donc on voit bien le déséquilibre total qu'il y a au niveau de ces négociations.
C'est une armée de lobbyistes qui, donc, on se mantra de dire qu'il faut tout miser sur le recyclage, omettant de dire d'ailleurs que la plupart des pays du monde n'ont pas les infrastructures nécessaires pour recycler. Marie-France Dignac, aujourd'hui, on sait qu'au niveau mondial, seulement 10% du plastique est recyclé. Pourquoi est-il si peu recyclé? Et surtout, on a commencé à comprendre dans ce que vous nous avez dit, ainsi que Marianne Molinaire-Dubos, la question suivante, est-ce que c'est vraiment souhaitable que de tout recycler? Enfin, quel est le pire, recycler avec des émissions de particules un peu tous azimuts et des matières plastiques de moindre qualité une fois qu'elles ont été recyclées? Qu'est-ce qu'il faut faire de ce plastique?
Alors, la question du recyclage, c'est Nathalie Gontard qui a proposé ce mot de décyclage, parce qu'en fait, la plupart des matériaux plastiques, on ne sait pas les recycler, on ne sait pas en faire le même objet, en particulier tout ce qui est emballage polyéthylène ou polypropylène qu'on va mettre dans la poubelle au couvercle jaune avec une bonne conscience en se disant on a fait un geste écolo. Mais en fait, déjà, ils vont pas tous être recyclés, et s'ils arrivent à l'usine de recyclage, ils vont être transformés en plastique de moins bonne qualité, parce qu'il va y avoir plus de substances absents chimiques, ils n'auront plus la qualité nécessaire pour être utilisés en contact alimentaire. Et il n'y a aucun plastique qui peut être recyclé pour fabriquer uniquement du plastique avec de la résine recyclée uniquement. On est obligé d'y ajouter de la résine vierge, donc directement issue des produits pétroliers, pour permettre, et de grandes quantités de résine vierge, hein, il ne faut pas se mentir. Donc finalement, on a écrit un article dans The Conversation qui montrait que c'était complètement illusoire de penser que le peu de recyclage qu'on sait faire sur quelques plastiques permet de diminuer la quantité de résine vierge. En fait, si on continue à augmenter la production, on continue à augmenter la quantité de résine vierge utilisée. Et finalement, il n'y a que le polyéthylène téréphthalate, donc le plastique clair des bouteilles de boissons, des bouteilles d'eau en particulier, qu'on sait recycler à peu près pour le même usage, donc pour refaire des bouteilles d'eau, toujours en ajoutant de la résine vierge. Et ce qu'on a entendu dans le reportage sur cette usine de recyclage, c'est complètement faux. Le plastique ne se recycle pas à l'infini. On peut faire deux ou trois cycles de recyclage avant qu'il devienne un déchet ultime et qu'on est obligé soit de mettre en décharge, soit d'incinérer avec des impacts sur l'environnement très importants.
Et d'ailleurs, à ce sujet, Marie-France Dignac, je voulais vous poser une question, parce qu'un quelqu'un pour préparer cette émission que l'équipe de Culture Monde a eu au téléphone a dit, c'est un géographe qui travaille sur le plastique, a dit que pour lui, finalement, il fallait presque arrêter de mettre le plastique dans la poubelle jaune, il vaut mieux l'incinérer parce qu'il faut s'en débarrasser du plastique, il faut tirer un trait sur ce plastique et qu'à force de le mélanger à des matières nobles comme le lin, la laine, etc., on produit des objets dont on n'a pas besoin et tout ce qu'il faut c'est le brûler pour vraiment ne plus avoir affaire au plastique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, l'incinération, c'est vrai, sur beaucoup de choses, au moins on s'en débarrasse, mais il y a quand même de gros soucis de pollution avec l'incinération, hein, d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de particules.
Même avec les nouveaux incinérateurs, nouvelle génération ?
Même avec les incinérateurs de nouvelle génération, même avec celui de région parisienne, hein, on a une pollution notamment aux dioxines lors de l'incinération des déchets, donc pas que des plastiques, mais ces incinérateurs pose quand même des problèmes, et même avec de la récupération d'énergie, ça n'empêche pas qu'on a des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, évidemment, aujourd'hui, peut-être que c'est une solution, mais la solution, c'est d'arrêter de produire du plastique et d'en consommer à outrance.
Alors, à force de rencontres et de discussions, et malgré l'échec apparent d'un accord sur le plastique, d'un traité sur le plastique, est-ce que des choses évoluent quand même progressivement dans le sens d'une limitation du plastique ? Est-ce qu'il y a des terrains, Marianne Moliner Dubos, sur lesquels les États peuvent s'entendre ?
Alors, en l'état actuel, je pense que la question de limiter la production, elle est vraiment crispante. À la rigueur, et c'est ce que j'entends des derniers textes, on pourrait s'entendre sur une limitation de la consommation de produits à usage unique et potentiellement sur l'idée d'interdire progressivement les plastiques jetables de type paille, voilà. Cela étant, voilà, c'est l'annexe qui avait été proposée dans le texte de Buzan a disparu dans les deux textes qui ont été proposés à Genève. Donc, je pense qu'on va repartir sur le texte de Buzan. Donc, on peut espérer qu'au moins ça puisse être mis sur la table. Ça permettrait de décoincer un petit peu, d'apaiser les négociations et de trouver un peu d'espoir et de voir un peu la fin du tunnel. Ça, plus ce qui paraît effectivement majeur, la réglementation des substances qui se trouvent dans certains types de produits à destination des enfants, en particulier les jouets.
En attendant, le texte de conclusion qu'a rendu cet été à Genève le président de séance l'équatorien Luis Vallas Valdivieso, il est quasiment vide. En tout cas, tous les points en discussion restent entre crochets. Il y a plus de 7000 mentions entre crochets. Le Rwanda, qui est très à la pointe de la lutte contre le plastique, parle d'un texte édenté. Est-ce qu'on peut se dire que, tous ces crochets, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun point d'entente, et à la limite, peut-être que ce n'est pas plus mal, ça veut dire que les pays les plus ambitieux n'ont pas renoncé à leur ambition, d'une certaine façon.
Ah oui, non seulement ils n'ont pas renoncé à leur ambition, mais ils l'ont renforcé. Le groupe de haute coalition se, se renforce, se structure. On l'a bien vu avec le Nice Wake-up Call dont parlait tout à l'heure Marie-France, la conférence sur les océans, où 97 pays, je crois, ou 96, ont réaffirmé la volonté ferme de conduire les négociations avec l'idée de pouvoir freiner cette production de production de plastique.
Et la coalition scientifique dont vous êtes membre, Marie-France Dignac, va être officiellement mandatée pour documenter la pollution plastique à travers le monde, un peu à la manière dont le GIEC est devenu l'institution scientifique d'autorité dont les rapports servent de base aux COP. Et bien, votre travail va être légitimé aussi dans ces instances. The green plastic watering can. For a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man in a town full of Fake Plastic Trees, les faux arbres en plastique du groupe Radiohead. C'est une chanson qui date de 1995, qui parle d'un arrosoir en plastique vert, d'arbres dans une fausse terre en plastique, acheté à un homme en caoutchouc. Alors le caoutchouc n'est pas le plastique, mais tant pis pour la chanson, c'est joli. Vous écoutez Culture Monde, le premier épisode de notre série sur les déchets. Aujourd'hui, le plastique, un problème qui reste non traité. Après l'échec des négociations internationales à Genève, les entreprises du pétrole font obstruction. Celles, en revanche, qui fabriquent des biens de consommation, mise plutôt sur la séduction.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Pour une entreprise comme Nestlé, qui s'est déjà pleinement engagée dans la lutte contre la pollution plastique à travers la Fondation Ellen MacArthur ou à travers des initiatives volontaires en matière de design de produits avec de nouvelles règles d'or, il est crucial de passer à une nouvelle étape et de rejoindre cette coalition pour un traité global sur le plastique, aux côtés d'autres entreprises et de bien faire comprendre à quel point il est indispensable d'avoir des normes contraignantes juridiquement, qui soient harmonisées au niveau mondial pour que les entreprises du monde entier utilisent le plastique de manière responsable.
Une représentante de l'Ellen MacArthur Foundation qui comprend l'entreprise Nestlé. Les grandes multinationales des biens de consommation n'ont pas les mêmes intérêts que les entreprises du pétrole. Nestlé, mais aussi Coca-Cola, Danone, PepsiCo ont une image à défendre ou à améliorer en investissant contre la pollution plastique. Bonjour Corentin Gariel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à Grenoble École de Management. Vous avez soutenu votre thèse l'année dernière sur la stratégie des multinationales des biens de consommation face à la pollution plastique. Alors, avant de se présenter comme des partenaires dans la lutte contre la production et la pollution plastique, quelles utilisatrices sont ces entreprises? Quelles consommatrices de plastique sont-elles?
Alors, donc ces grandes firmes, hein, dont je ne vais pas rementionner les noms pour pas leur faire de pub.
Il y a aussi Unilever qui fait pas mal de marques de produits ménagers. C'est pas pour leur faire de la pub, c'est justement pour rappeler qui sont celles qui.
C'est très concret. Nous les connaissons tous absolument. Ces différentes entreprises, effectivement, produisent un certain nombre de produits qu'elles ont besoin de stocker, de transporter puis de commercialiser. Et le plastique s'avère extrêmement pratique pour elles, hein, que ce soit pour des boissons, de la nourriture ou des produits d'entretien. Et donc ça va aller donc de la bouteille en plastique au film plastique, mais aussi à l'emballage multicouche où on a à la fois du plastique, du carton, du papier, donc par exemple sur les briques de jus de fruits ou de lait. Et donc ces grandes firmes sont de grandes consommatrices. Après, peut-être pour rappeler un grand chiffre, aujourd'hui les 5 plus grandes entreprises dont on parle dans le secteur représentent à peu près, une part assez faible de l'ensemble de la production de plastique au niveau mondial. Hein, c'est moins de 1%. En revanche, dans ce qu'elles représentent au niveau de leur industrie, donc des produits à usage unique, des plastiques à usage unique, c'est beaucoup plus important. Hein, les plastiques à usage unique dans l'ensemble de la production de plastique, c'est à peu près 40% aujourd'hui.
Et notamment ces emballages qui représentent 31% de la production plastique mondiale et 40% des déchets plastiques aujourd'hui sont des emballages. Alors ces entreprises, pas de marque en effet, Corentin Gariel, ont signé en juin dernier, juste avant le sommet de Genève, une lettre pour appeler à une harmonisation des normes plastiques pour mieux réguler la pollution, disent-elles. Comptent-elles à y gagner à des normes qui a priori viendraient les contraindre? Pourquoi est-ce qu'elles se positionnent sur ce sujet?
Alors, en fait, l'enjeu pour ces firmes, il y a un enjeu d'image, évidemment. Ce qu'on constate à partir de 2015, c'est qu'elles sont extrêmement ciblées par un certain nombre d'ONG et d'acteurs de la société civile qui montrent à quel point elles sont visibles. Donc, les coalitions d'ONG ont pu montrer, notamment à travers des audits, à quel point elles étaient visibles, à quel point elles représentaient des volumes importants dans les échantillons collectés, par exemple, dans les océans. Et les stratégies volontaires qu'elles ont mises en place, notamment à travers la fondation Ellen MacArthur dont vous avez déjà parlé, ont été très limitées en fait. Elles ont pris des objectifs ambitieux, mais qu'elles ont absolument pas atteints. Et ce qui est difficile pour ces entreprises, c'est qu'effectivement l'image est très importante. Ça a des aspects très positifs et la pollution plastique rejaillit sur leur image de manière négative. Et donc, compte tenu des limites de leur stratégie volontaire, elles ont pris l'engagement fort de se positionner pour un traité obligatoire et une harmonisation des règles concernant la régulation des plastiques.
Mais est-ce que d'une certaine façon, une harmonisation des règles, ce ne serait pas faire leur jeu à elles, ces entreprises qui ont les moyens de s'adapter, d'adapter leur chaîne de production à d'éventuelles nouvelles normes, alors que certains de ces concurrents, de leurs concurrents, n'ont pas ces moyens-là?
Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, elles ont des ressources que leurs concurrents, notamment locaux, n'ont pas. Dans le même temps, changer les chaînes de valeur, c'est très complexe. Passer effectivement du plastique à d'autres matériaux ou alors carrément à du vrac ou à des solutions où il n'y a plus d'emballage, ça demande du temps, ça bouleverse les chaînes de valeur. Et donc l'intérêt d'avoir un traité, c'est justement de permettre d'accompagner et de mettre l'ensemble des acteurs de l'industrie, du marché, entre guillemets, à égalité.
C'est vrai que pour elles, le plastique n'est pas comme pour les entreprises du pétrole, les multinationales du pétrole, c'est pas un marché, c'est un outil. Elles se sont donc imposé certaines règles en intégrant cette coalition, la fondation Ellen MacArthur, donc du nom de cette navigatrice, et le WWF, par exemple, des ONG comme ça, avec qui les ONG aujourd'hui, les entreprises discutent. Elles se sont fixées des objectifs à atteindre d'ici les 5 ans qui viennent, ne commercialiser que des emballages recyclables par exemple, ou augmenter la part de plastique recyclé dans les emballages. Coca-Cola s'était fixé 50% comme objectif d'ici 2030. Mais vous dites que pour l'instant, elles n'ont fait aucun effort, ou il y a quand même eu quelques progrès?
Alors, il y a une différence entre moyens et résultats, on va dire. Il y a des efforts qui ont été entrepris, mais qui sont largement insuffisant. Les taux, alors effectivement, il y a la première étape qui déjà est de ne pas remettre en cause le modèle dominant de ces entreprises qui consiste à tout simplement rendre les emballages recyclables, ce qui est déjà une première étape. Ça a été globalement plutôt, tout dépend après ce qu'on appelle être capable de recycler une matière, mais en tout cas, il y a eu des avancées. Il y a aussi des avancées sur l'usage du plastique recyclé et leur réincorporation dans les emballages. En revanche, sur tout ce qui est réutilisation et mise à l'échelle du plastique, donc de la réincorporation du plastique recyclé, les objectifs ne sont pas atteints et notamment dans les pays qui n'ont pas d'infrastructure de gestion des déchets où la situation est particulièrement complexe pour ces firmes.
Et notamment, vous avez travaillé, Corentin Gariel, sur 5 terrains, dans 5 pays où ces multinationales ont des filiales, Thaïlande, Vietnam, Ghana, Côte d'Ivoire et Indonésie. Comment ces entreprises, disent-elles, travaillent sur place au traitement des déchets, au recyclage du plastique? Est-ce qu'elles ont mis, là encore, des moyens pour faire en sorte que le traitement du plastique et la production en amont se passe dans les meilleures conditions possibles?
Alors, ces firmes, donc les filiales en local, en effet, essaient de mettre en place des actions. Hein, initialement, dans les premières années, entre 2015 et 2020, ça a été principalement des actions de RSE volontaires, plutôt de l'ordre du symbolique, hein, avec des effets, encore une fois, limités. Ça peut être à la fois de la subvention aux acteurs de la gestion des déchets pour en fait déjà arriver à un stade où on a des infrastructures de collecte, parce que dans ces pays ça manque. On a un enjeu où le secteur informel, et je crois que vous aurez une émission là-dessus, qui est très important, mais qui effectivement a des soucis à se structurer et où il y a un enjeu à savoir comment est-ce qu'on les intègre à des systèmes de chaîne de valeur de gestion des déchets. Donc, ces firmes ont essayé un petit peu de financer ça. Elles ont aussi essayé de développer elles-mêmes, en partenariat avec des gros acteurs de la gestion des déchets, des usines de recyclage, pour pouvoir réincorporer le plastique. Mais l'enjeu, pour elles, c'est d'arriver à rester compétitive. Et donc, dans ce cadre-là, les actions volontaires, comme on le constate dans le cadre du traité international, sont pas suffisantes. Et donc, ce pourquoi elles poussent aujourd'hui, c'est une nouvelle régulation dans chaque pays, dans chacun de ces pays, qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur et qui vise à favoriser le développement des infrastructures de collecte et de recyclage des déchets.
Alors que ne serait-ce qu'en France et les riverains des sources départ et Contrex, nous en voudrait beaucoup de ne pas le mentionner à raison d'ailleurs, on a vu des études récentes montrer que ces sources contiennent des taux de microplastiques exorbitants à cause de bouteilles de plastique amoncelées sauvagement par Nestlé près de ses propres forages et qui ont pollué les sols et les eaux alentours. Peut-être un tout petit mot de conclusion, Corentin Gariel. En tout cas, ces entreprises ne vont pas manifestement jusqu'à remettre en cause leur propre chaîne de production, en tout cas miser sur un moindre recours au plastique.
Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on voit dans les pays que j'ai pu enquêter et étudier, c'est vrai que la principale solution qui est avancée, c'est le recyclage. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore un désalignement avec leur engagement au niveau international dans le cadre du traité sur les plastiques. Et malheureusement, enfin, on espère en tout cas plutôt que le traité international, s'il aboutit, permettra aux filiales sur le terrain d'avancer d'autres solutions avec de l'éco-conception, de la réduction des emballages, etc.
Merci beaucoup Corentin Gariel, chercheur à Grenoble École de Management. Un tout petit mot de conclusion, Marie-France Dignac, les ONG qui acceptent que ces entreprises se battent à leur côté, ça vous fait bizarre quand vous êtes à ces grands sommets?
Oui, alors les ONG sont pas toujours les meilleures intentions environnementales, hein, et en tout cas toutes ces grandes entreprises dont on a cité les noms, elles sont aussi sur le podium des plus gros pollueurs, de ceux qui utilisent le plus de plastique avec une augmentation exponentielle de du plastique de leurs produits, et elles ne dans les négociations, elles font partie de cette business coalition qui n'aborde pas du tout l'amont du cycle de vie du plastique, donc la production, et qui se contente de vouloir continuer le système, le statu quo, avec soi-disant un recyclage qu'on sait techniquement impossible pour les emballages alimentaires.
Merci beaucoup Marie-France Dignac d'avoir été avec nous, ainsi que Marianne Molinaire-Dubos qui était en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Merci à Chantal Nouvelot de vous avoir reçu. La revue de presse internationale est présentée ce matin par Laura Dulieu. L'Indonésie est en proie à de violentes manifestations depuis une semaine, Laura.
6 personnes sont mortes, dont 3 dans l'incendie d'un bâtiment municipal déclenché par des émeutiers et un chauffeur de mototaxi à Jakarta, écrasé par un véhicule de police. C'est ce qui a mis le feu aux poudres, raconte The Guardian. À cette colère déclenchée initialement par l'annonce de plusieurs allocations pour les 580 députés, en plus de leurs revenus mensuels, dont une de 50 millions de roupies pour le logement, soit un peu plus de 2500 euros. Ça représente près de 10 fois fois le salaire minimum indonésien. Plusieurs maisons de parlementaires ont été visées et pillées par les manifestants ces derniers jours, raconte The Straits Times. Des parlementaires critiqués pour exhiber leur luxe ou pour s'être mal comportés vis-à-vis des Indonésiens et de leurs difficultés économiques. Des pillages diffusés en direct sur les réseaux sociaux, poursuit le journal singapourien. Si bien que TikTok a annoncé suspendre sa fonction live dans le pays pour les prochains jours.
Des manifestations qui sont aussi la première grosse épreuve pour le tout jeune pouvoir.
Prabowo Subianto dirige le pays depuis moins d'un an. Cet ancien général a annulé son déplacement en Chine où se tient en ce moment le sommet régional avec les dirigeants eurasiatiques, nous apprend le Jakarta Globe. Resté en Indonésie pour gérer cette crise, Prabowo Subianto fait preuve depuis une semaine de fermeté envers les manifestants qu'il accuse pour certains de trahison et de terrorisme, peut-on lire dans le Guardian, tout en défendant les manifestations pacifiques et constructives, selon le journal britannique. Le président indonésien a fini par annoncer l'annulation de plusieurs mesures, notamment le montant des indemnités versées aux législateurs, sans pour autant donner davantage de détails sur là où les allocations concernées.
Dans la suite de votre revue de presse internationale, Laura Dulieu, de nouvelles images de bombardements israéliens nous parviennent de Gaza.
Et si ces images nous parviennent, c'est grâce aux journalistes palestiniens toujours présents dans l'enclave. Or, ils sont de moins en moins nombreux. Plus de 200 ont été tués par Israël depuis près de 2 ans. C'est l'objet d'une action de nombreux médias à travers le monde. Il y a une semaine, 5 journalistes sont morts à l'hôpital Nasser, frappés 2 fois de suite par Israël. Mohamed Soleiman collabore avec El País America, où il écrit les morts, les bombardements, le manque de soins, la faim. Dans son dernier article, le journaliste raconte comment il a échappé à la mort une fois de plus ce lundi 25 août. « Quelques heures de retard », écrit Mohamed Soleiman. « Quelques heures de retard dans le rendu de mon reportage sur l'effondrement des soins de santé à l'hôpital Nasser de Khan Younes m'ont sauvé la vie. J'écrivais cet article pour El País, citant l'hôpital comme exemple de la détérioration du secteur médical à Gaza. J'avais prévu de partir tôt, comme d'habitude, pour faire un reportage sur les enfants malnutris à l'hôpital. Mais j'ai décidé de terminer d'abord l'article sur les soins de santé. Les heures passées lundi matin à terminer l'article m'ont permis de ne pas être sur place lorsque les obus israéliens ont frappé l'hôpital. Le journaliste raconte la terreur de sa fille qui le croyait parti à l'hôpital et les supplications de ses enfants et de sa femme lui demandant de ne plus faire ce métier, d'arrêter de prendre autant de risques. Mais ma détermination est restée intacte, écrit-il. Qui diffusera au monde le génocide de tout un peuple si les journalistes abandonnent? Qui documentera les crimes commis contre des innocents si l'un d'entre nous faiblit, se demande Mohamed Soleiman, évoquant la dévotion quasi sacrée qu'ont les journalistes gazaouis à leur profession. Elle transcende le simple emploi, poursuit-il. Aucune somme d'argent, aussi importante soit-elle, ne peut compenser les blessures ou les pertes humaines. Aucune récompense matérielle ne vaut l'anxiété, la peur et la terreur qui nous hantent. Le lendemain des frappes sur l'hôpital Nasser, Mohamed Soleiman a survécu de peu à 2 autres bombardements israéliens.
On termine le rap par un petit pays, Porto Rico, propulsé sur le devant de la scène internationale par un artiste natif de l'île.
On parle bien évidemment de Bad Bunny, en pleine résidence musicale depuis juillet à Puerto Rico, où les effets de ses concerts et de son dernier album, Ode à son île natale, se font déjà sentir. Un effet économique d'abord, explique The Independent dans un article repéré par le Courrier International. Plus de 35 nuits d'hôtel ont été réservées pendant la saison estivale normalement lente. Les concerts devraient attirer plus de 600 000 visiteurs, générer plus de 186 millions de dollars et créer plus de 3 600 emplois, selon les responsables gouvernementaux. Un effet sociétal également. Ils veulent me prendre la rivière et la plage. Ils veulent que mon quartier et ma grand-mère s'en aillent. Voilà ce que chante Bad Bunny dans ce morceau « Lo que le paso à Hawaï ». En référence à l'érosion de l'identité portoricaine face à l'afflux de personnes venues du continent américain, dont beaucoup sont attirés par une loi de 2012 qui permet aux Américains de s'installer sur l'île et de ne payer aucun impôt sur les plus-values Tuvalu. Aujourd'hui, écrit The Independent, les Portoricains sont des citoyens américains soumis à la loi fédérale et à la constitution américaine, mais ils ne peuvent pas voter à l'élection présidentielle américaine. Ils n'ont pas non plus de représentants au Congrès, dont les membres contrôlent pourtant la gouvernance de l'île. Un statut de colonie questionné et dénoncé par le chanteur qui impose ce sujet sur la scène internationale, Bad Bunny, qui, une fois sa résidence portoricaine terminée, partira en tournée dans le monde entier ou presque. Aucun concert n'est prévu aux États-Unis.
Merci Laura Dulieu.